Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Marie-Paul Rioux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es ici pour nous parler d'une exposition bientôt ouverte sur 3 journées, hein,
voilà.
Fin mars, du 30 au 1er avril à la Forge d'Auguste. Une exposition collective, puisque participera aussi à celle-ci, donc Ada Messoun. Une exposition entre peinture et mosaïque.
Voilà, donc à la Forge d'Auguste, qui commencera en fanfare à 19h le 30 mars. Une expo qu'on pourrait appeler Résilience, si on lui donnait un nom. Parce qu'en fait, Expo Vente, c'est pas des plus poétiques. Mais enfin, l'objectif, c'est quand même, oui, en fait, de transformer un petit peu les productions en monnaie, si possible. Parce qu'un souvenir d'une expo qu'on avait pu faire à la Forge, c'est que mon banquier avait disparu, enfin qu'une petite pièce avait été volée. Donc là non, c'est oui, bien sûr, regarder les peintures, regarder les mosaïques, mais peut-être aussi qu'il y ait moins de pièces après la fin de l'expo.
Une exposition de travaux en 2 dimensions, hein, cette fois-ci.
En 2D, en 3D, dans la 5D, puisqu'il y a des gens qui parlent du passage à la 5D, donc j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, oui, ce sera des choses à voir avec ses yeux, avec le cœur aussi. Voilà. Des peintures de chance, donc c'est moi, hein. Je dis chance parce que tout à l'heure tu m'avais présenté sous le nom de Marie-Paul, mais en fait au niveau de la peinture, je suis référencée en tant que Sista Chance. Alors on a enlevé le Sista parce que voilà, et la chance, ben ça reste pour la peinture.
Oui, on va parler un petit peu du travail de Messoun. Donc, Messoun propose des mosaïques. Est-ce que tu as vu ses œuvres et est-ce qu'elles
oui.
sont toujours d'une beauté?
Alors moi j'ai pu voir le travail de mosaïque de Messoun à la médiathèque il y a quelques années de ça, et j'avais été vraiment émerveillée par la finesse de son travail. Et puis comme c'est quelqu'un que je connais depuis de longues années, j'ai vu évoluer son travail au fil du temps, et j'ai trouvé vraiment que ça, enfin pour moi c'est vraiment un travail magnifique, avec plusieurs niveaux de lecture, poétique, très fin, avec du collage, avec du sens, avec de la magie, quoi. Voilà.
Donc, tu voulais intituler cette exposition Résilience.
Oui.
Résilience, ça va mieux, donc?
Oui, en fait, résilience, c'est un mot qui m'est venu comme ça, parce qu'en fait c'est vrai que du coup des fois quand on pratique la peinture, pouvoir le faire à plein temps, je pense que c'est vraiment un luxe que tout le monde peut pas se permettre. Donc moi je fais ça après le travail, ou les jours fériés, ou les jours, n'importe quel jour en fait. Juste avoir dû un petit peu mettre entre parenthèses ma production pour des urgences comme payer un loyer, s'occuper des enfants, tout ça. Donc oui, résilience pour ça, parce qu'en fait j'avais pas envie de lâcher le pinceau, donc j'ai continué à peindre un petit peu d'une manière un peu en pointillé. Puis en fait, des fois, je me fais des crises comme ça. Voilà, donc il y aura des nouvelles choses, des choses qui ont été montrées à la Forge il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, qui sont sorties à l'occasion d'une petite soirée organisée par Saïd et Waki à la Forge, comme Géométrie variable.
Ton inspiration picturale vient principalement quand même d'Amérique centrale.
Alors, je dirais qu'au départ, ça a été une grosse influence parce que peut-être que j'avais un peu traîné là-bas. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai commencé une fresque au musée du café à San Cristobal, mais j'ai pas mal officié aussi en France. Et j'ai fait quelques petites fresques. Dont un bar à Marseille, enfin ce qui n'est pas vraiment une fresque, mais un bar avec un copain. Le bar des 13 coins au quartier du Panier de la ville de Marseille, qui a été vraiment un tournant pour nous. Parce que en fait, c'est quelque chose qui a été vraiment bien reçu par les gens. Et en plus, c'était un lieu très très convivial. Enfin voilà, là on a eu la chance de faire cet endroit. Et puis oui aussi, c'est montrer ce travail et puis ouvrir, parce qu'en fait, j'aimerais bien repeindre plus dans la ville, j'aimerais bien refaire du chantier, reprendre un petit peu ce que j'avais un peu mis de côté ces années passées là.
En parallèle de ce travail pictural, toi-même, tu pratiques une activité d'accessoiriste?
Eh ben, du coup, oui, pour parer à l'urgence, aux réalités de la vie, je me suis tournée. Puis c'est un petit peu aussi, c'est un petit peu qu'on m'a dit, Madame Rioux, faut que vous ayez un vrai travail. Donc j'ai fait un vrai travail, j'ai découpé des tissus, je les ai assemblés, je les ai piqués, j'ai fait des trous avec des marteaux, enfin un marteau pour poser des œillets, enfiler des lacets et proposer aux femmes, puisqu'en fait je fais que des modèles pour femmes, mais des guêtres. En fait, cette activité m'a vraiment fait un bien fou parce que déjà ça a été très bien reçu. Et puis, c'est vraiment un plaisir de faire ça, de rencontrer des gens, de discuter, et puis d'échanger un petit peu autour de la guêtre. Et du coup, le fait d'avoir cette activité où je me suis sentie plus en sécurité matériellement. Et du coup, c'est ce qui m'a pris énormément de temps, parce qu'en fait, quand on travaille comme ça, à monter, en plus, comme on est poussé à l'entrepreneuriat, par les structures gouvernementales et tout ça, enfin, on n'a vraiment pas beaucoup de choix quant à la façon d'agir et de faire. Donc on se retrouve à travailler un peu comme des dingues et à tout gérer pour être un entrepreneur.
Là-dessus, en parlant de guêtres, donc, tu associes aussi ta pratique plastique en décorant ces guêtres à l'aide de motifs sérigraphiés.
Voilà, de la sérigraphie, des perles, puis l'assemblage de couleurs, de tissus, voilà. Mais ça, c'est donc une activité qui me permet de reprendre la peinture, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai dû aller au travail, sur mon vélo. C'était super, en fait, d'aller au boulot dans un endroit comme dit, parce que, sur mon vélo, en allant au boulot, je voyais des chevaux, je roulais entre les arbres, c'était assez chouette, finalement. Mais enfin, au niveau, c'était quand même assez chronophage. Et puis du coup, il restait pas beaucoup de temps pour la peinture. Alors qu'en fait, là, je peux me remettre à peindre. Ouais, donc résilience pour dire que c'est pas toujours évident de pouvoir tout... Ah oui, tu me disais, je fais carrément un demi-tour... Et je repense à la question que tu me posais par rapport à mon travail. Donc l'inspiration mexicaine, oui, il fut un temps. Et puis après, c'est plus autour de la femme et du féminin. Alors sacré, pas sacré, massacré, en fait, autour du féminin. C'est surtout là que j'ai envie de m'exprimer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer encore. Voilà. Dans notre société contemporaine, par rapport au féminin, voilà.
Est-ce que le rapport homme-femme à l'heure actuelle, il existe actuellement tout un mouvement de dénonciation de pratiques masculines qui sont déplacées, avec comme Balance ton porc,
ah oui, ou
MeToo, tous ces mouvements-là
ah oui.
Quel regard portes-tu sur ce type de démarche ?
Balance ton porc, déjà, j'aime pas du tout. Alors la balance, ça va à peu près. Enfin, si c'est balancé, c'est non bof, quoi. ton port encore moins. Enfin, c'est pas du tout un truc dans lequel c'est évident qu'on doit dénoncer ce genre de pratique. Mais enfin, bon, MeToo, par contre, c'était un peu différent parce que c'est sûr qu'il y a une espèce de loi du silence par rapport au fait que beaucoup de femmes sont agressées sexuellement et puis aussi violentées parfois, battues, frappées, assassinées par leurs petites amies, leurs compagnons. Je sais plus si c'est tous les deux jours qu'il y a une femme qui meurt, enfin bon, sous les coups de son conjoint, ou alors son compagnon. Mais enfin, toujours est-il que ça fait quand même assez mal. Je pense qu'il y a des hommes battus aussi. Ça peut arriver. Mais enfin, je pense qu'au niveau du nombre des victimes, c'est quand même un peu moindre. Mais par contre, partir dans le délire de se confronter au masculin dans un combat, non, moi je serais beaucoup plus pour une complémentarité. Par contre, je suis tout à fait pour que les gens, que ça évolue et que la parole soit reprise. Alors ça engendre vraiment des débats qui sont assez houleux, assez violents, quand on voit par exemple ce qui se passe avec Quanta et Marie Trintignant, feu Marie Trintignant, enfin toutes ces histoires-là où en fait le débat sur la femme, la condition de la femme. En fait c'est bizarre parce qu'il y a eu un espèce de revirement ces dernières années, enfin moi je le vois comme ça, par rapport à ce qu'on pouvait appeler avant, enfin qu'on appelle toujours le féminisme, mais qui est vu beaucoup comme par des gens comme quelque chose d'assez casse-couille en fait, ou alors casse au vert, enfin voilà, ça emmerde un peu les gens quand on appuie sur des trucs qui font mal, vaut mieux faire style que tout va bien et c'est super la vie et positive attitude tout ça. Mais à un moment, il y a une certaine réalité qui a à faire évoluer. Quand on pense à l'excision, par exemple, bon, je ne pense pas qu'il y a énormément de nanas dans le Diwa qui soient excisées. Mais quand on sait que dans l'absolu, ça existe et ça continue d'exister et que c'est très, très fréquent, je pense que oui, au niveau du féminin, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas en rentrant dans un affrontement et une accusation comme ça du masculin, c'est plus, c'est compliqué en fait, c'est juste comment faire ça avec amour et sans violence, sans haine quoi, sans chercher une confrontation, voilà, je sais pas trop, j'ai pas vraiment de réponse. Moi ma façon de faire, déjà c'est pas de passer par le discours mais plus acter, c'est-à-dire vivre moi comme j'ai envie de vivre et faire les choses que j'aime faire, voilà. Et puis, je peux pas m'empêcher, justement, quand je prends les pinceaux, de, par exemple, parler avec les pinceaux, mais non, d'un féminicide qui s'est passé au Mexique, à Juarez, à Ciudad Juarez, où des centaines de femmes ont été assassinées. Et puis, puisqu'on est dans des trucs un peu pathos, je voudrais au passage saluer, parce qu'en ce moment, ça me remue énormément. Mais je pense beaucoup aux femmes kurdes en ce moment, ce qui se passe à Afrin, et puis le manque d'engagement et de réaction des politiques, des contemporains. Je me demande ce que fout un petit peu l'Union européenne, enfin ce qui se passe. Hein. Parce que ces femmes, ces combattantes, je comprends pas qu'on les laisse comme ça tomber sous les bombes. D'ailleurs, il y a même des femmes, des internationalistes qui vont là-bas et qui sont disparues maintenant, qui ne sont plus, parce qu'elles ont choisi de se battre. Hein. Et puis bon, voilà. Enfin, pour saluer le courage de certaines femmes, et voilà. Enfin, moi, j'ai lu, alors je ne sais pas si les sources, parce que maintenant, on ne sait plus si on lit un truc, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas trop. Mais enfin, apparemment, il y a des fonds qui ont été envoyés en Turquie, Erdogan, par rapport à la gestion des réfugiés, en fait, apparemment, il est quand même vachement soutenu, plus que dénoncé, par rapport à sa politique. Je sais pas comment... Ah oui, si, les femmes kurdes, voilà, féminicide, féminité, féminisme, féminin sacré, voilà. Donc, j'ai un grand respect pour ces femmes.
Enlève ton armure, même si ça te plaît. Enlève ton armure, que je pose, te plaît. Je pose tes armes. Le cache, puis tes larmes. Enlève ton armure, la guerre est terminée. Regarde tes blessures, elles ont cicatrisé. Je pose tes armes. Sois pas vache, lâche ta hache. Jette ta mitraillette et ton fusil, ton pistolet. Ton arbalète, ton pic à glace et ton piolet, s'il te plaît. Enlève ton armure, même si ça te déplaît. Enlève ton armure, je vais te caresser. Donne-moi ton bouclier, ton casque si tu peux l'ôter. Pour le repos du guerrier, un petit break bien mérité. Laisse-moi tout masser, passe-moi ton chalumeau. Une pincée, une tenaille pour ta côte de maille. Aïe. Dis-moi où est ta disqueuse, je serai une femme heureuse. Faut-il que je te torture pour te sortir de ton armure? Pose tes armes. Dépose tes armes. Dépends ton âme. Tes flèches, tu décoches, oui, tu joues à cache-cache. Tu as ton armure, moi je suis touchée. Toi tu as ton armure et moi je suis blasée. Dans ta boîte à outils, y'a pas la solution, non. Descends de l'établi, je vais essayer une autre option. L'ouvre-bois n'est pas adéquate, le tournevis, oui. Le tuyau d'arrosage n'est pas fait pour cet usage. J'aurais dû te couper en morceaux avec la scie à métaux, ça serait ballon.
Sunada Cosmonaute, qui est quelqu'un que je connais depuis une bonne paire d'années, on va dire ça comme ça. Et ben, j'adore son travail, je le trouve très. Je suis vraiment très, très fin. Et je suis vraiment contente qu'on fasse ça ensemble. On va pouvoir célébrer, un petit peu nos parcours. Et j'espère que y aura des copains, des copines pour trinquer avec nous et puis pour parler de plein de choses.
Et donc, autour de cette exposition d'œuvres, peinture et mosaïque, il y aura peut-être quelques animations ?
Alors, expérimentation sonore, comme ça s'appelle. Peut-être quelques notes qui vont sortir d'un instrument ou deux, encore que je ne sais pas vraiment. Peut-être une boîte à musique ou alors... un tambourin, je sais pas trop, on verra.
Veillez à ce que ça soit libre de droit.
Hein. Tout à fait.
La thématique, donc tu dis que c'est axé sur le féminisme.
Ah non, pas sur le féminisme, sur le féminin.
Sur le féminin, donc.
Oui.
Hein, on va positionner ça. Oui, ben vas-y, explique-toi justement. Oh ben, et peut-être d'amener la différence entre féminisme et le féminin.
Ah ben non, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est... comment dire? Pour moi, il n'y en a pas. C'est juste que je me suis rendu compte que ça a évolué, qu'il y avait... énormément de personnes, de femmes en ce moment qui célébraient, qui retrouvaient les rythmes avec la lune, plein de gens plein de nanas qui sont branchées thérapie, coaching l'éveil de la déesse Et en fait, plein de femmes qui retrouvent leur lien avec le sacré, le féminin sacré, parce que c'est à partir de certaines lectures, je me suis tournée vers ça, en même temps qu'avoir une expérience lunaire absolument époustouflante au Mexique en 96, je sais plus. Enfin, moi, je me suis rebranchée avec la lune. Et puis, je suis un petit peu, je suis branchée avec la lune, ouais, complètement. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté de femmes. D'ailleurs, ce matin, il y avait un cercle de femmes aux AJC du local. J'ai pas pu y aller parce que je collais mes affiches. Mais si j'avais pas eu les affiches à coller, je pense que je serais allée les rejoindre. Parce que... je pense qu'il y a besoin de... Ah oui, puis un mot... un mot qu'on prononce quasiment jamais, c'est d'ailleurs qui est pas du tout dans la devise de la France. C'est quoi, liberté, égalité, fraternité? Et alors il y a un mot qui est peu usité, qui s'appelle sororité, qui est d'ailleurs pas facile à dire. Alors sororité, c'est donc comme la fraternité, mais pour les nanas. Et donc je pense que par rapport au millénaire passé, à l'histoire, ce que les femmes ont pu traverser. Il y a eu des moments super fun pour toutes les nanas, je pense. Il y a eu des grands moments de joie, des gros moments de bonheur, mais faut pas oublier quand même, au siècle dernier, les femmes ont dû arracher le droit de voter, ont dû arracher le droit d'avoir un compte en banque hormis leur mari, le droit de travailler, et qu'au niveau des salaires, en France, c'est pas gagné. Et que si la parité, si le concept de parité existe, c'est que en fait la marité n'existe pas. Hein, et la marité, c'est quand il y a plus de nanas que de mecs. Donc, par exemple, un cercle de femmes, en général, c'est la marité qui domine, quoi. Donc, pour moi, oui, il y a plein de choses à faire bouger, mais pas forcément dans quelque chose de lourd, de chiant et de gonflant. Mais plutôt quelque chose qui soit dans le domaine de... un peu... pas du rêve. du rêve éveillé, quoi. Enfin, pour moi, je pense que c'est un genre de mission, quoi. En fait, c'est simplement que les choses soient faites et que l'énergie qui génère les changements, soit pas une énergie de haine, de frustration, mais bien une énergie d'amour et d'épanouissement. Voilà.
C'est la thématique qu'on retrouve sur tes toiles, le féminin, l'amour. Et comment le traduis-tu, puisque tu parlais tout à l'heure de tes premières influences d'Amérique centrale, semble-t-il donc tu t'es écarté de cette influence-là pour les œuvres que tu présenteras?
Parce que finalement, je ne suis pas allée m'installer au Mexique pour faire de la peinture là-bas. Je suis restée ici... c'est pas parce qu'on est dans un endroit qu'on peut pas capter de toute façon qu'on peut pas capter des choses qui viennent de partout, puisque en fait pour moi je pense que on est vraiment des émetteurs récepteurs ou récepteurs émetteurs, j'en sais rien, et que si on est bien disposé par rapport à ça, qu'on peut recevoir des messages qui sont en train de flotter un petit peu tout autour de la Terre, j'en sais rien, dans l'espace, et que ils passent à travers nous, et que voilà, si on a envie, on peut retraduire ces choses là on est juste des vecteurs, en fait. Voilà. Et donc et puis en plus c'est une petite prod que j'ai, parce que j'ai vraiment dû je m'étais calée sur les lunes. À partir d'un moment, j'ai réussi à faire une toile par mois en plus de mon boulot de maman. Et le fait de faire des guêtres, d'être sur les marchés, d'aller faire les courses, de coudre, de tout ça. Donc j'étais arrivée à une toile par mois entre chaque lune. Et puis après, il y a eu l'éclipse au mois d'août, une espèce d'énorme éclipse. Et puis en fait, là, j'ai été bloquée par trop de travail, les marchés de l'hiver à préparer. J'ai fait une grosse pause forcée. Et attendre que l'inspiration revienne, et puis aussi le temps. Voilà, et puis là, là aussi un petit projet. Alors je raconte une anecdote, je peux ? Alors un jour j'ai rêvé que je me promenais à Athènes, et en fait c'est une ville que j'aime bien, Athènes. Et il faisait faim. On était dans la rue avec des gens, on avait faim, on avait super faim. Et au mur, il y avait des affiches qui représentaient des couteaux, des fourchettes et des cuillères entremêlées comme un tissage. Alors, quand je me suis réveillée de ce rêve, j'ai photocopié mes couverts et j'ai tissé ce que j'avais vu dans la nuit. Et j'ai fait un premier essai avec ce tissage de couvert. Et j'ai fait une toile comme ça, mais qui ne me satisfaisait pas vraiment. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article sur Exarchia et ça m'a redonné envie d'aller en Grèce. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc de ouf. Je vais refaire ce tissage de couvert. Et comme dans mon rêve, j'ai vu que c'était sur les murs d'Athènes, et ben je vais aller coller ça à Exarchia. Voilà, je me suis donné cette mission de boucler la boucle du rêve et d'aller... Mais donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours pour faire celle-là, parce que j'en ai commencé d'autres. Bon, alors ça n'a rien à voir avec le féminin ou le masculin ou quoi que ce soit. C'est juste... reprendre le truc qu'on est des vecteurs et qu'on est des émetteurs-récepteurs, parce que moi, ce truc-là, il m'est venu en rêve, j'ai absolument rien cogité, voilà, et c'est comme ça que j'aime fonctionner, et puis, parce que ça redonne de la magie dans mon quotidien, voilà. Voilà, donc, on est J-9, je sais pas, je me rappelle plus trop, mais donc, voilà, je vais retourner bosser, là, parce que c'est pas encore fait.
Ooh.
revenir sur ta peinture, je pense qu'il y a une grande artiste qui a influencé aussi ton travail, c'est Frida Kahlo.
Alors Frida Kahlo, elle m'a influencé pas tant au niveau pictural. Je dirais que c'est mon père spirituel. En fait,
c'est ton père ou ta mère?
Ta mère.
on revient dans le matriarcat.
Ben Frida, qui est devenue une icône internationale. Maintenant, c'est un peu comme le Che. On en a presque marre de la voir partout, sur des chaussettes, sur des, enfin tout ça. Avant l'overdose, quand même. C'est pareil. Ce qui m'a vraiment plu chez cette femme, c'est sa force. Malgré sa maladie, malgré tous les handicaps qu'elle a pu avoir physiquement, elle a quand même produit énormément. Puis elle a eu une vie un peu de fou. Puis au siècle où elle était, c'était le genre de nana qui s'habillait en pantalon. Enfin, qui a assumé beaucoup de choses. Par contre, je dirais que Frida Kahlo, si elle n'avait pas été l'épouse de Diego Rivera, je ne sais pas si ça serait maintenant une icône internationale comme ça, parce que qu'est-ce qui lui a donné de la visibilité? C'est d'avoir une montagne comme Marie, enfin, un personnage incontournable, un muraliste. Connue internationalement, qui engagée politiquement, qui voyageait partout. Et si elle avait été une peintre anonyme, célibataire, parce qu'elle a eu une vie quand même, elle était quand même hyper. Mais c'est une femme qui a été énormément photographiée. Je ne sais pas si tu vois toutes les photos d'elle qu'il y a. Donc c'est quand même, pour moi, elle fait quand même partie d'une certaine élite quand même. Donc oui, le courage. Bon, après, quand j'ai vu ces toiles en vrai, en plus, au départ, je me suis dit, mais c'est quoi cette mégalo? Elle n'arrête pas de se peindre. Qu'est-ce qu'elle avait avec sa tête, cette femme et tout? Et puis après, j'ai vu d'autres œuvres d'elle. Et puis après, j'ai compris un petit peu sa démarche. Et c'est vrai qu'en voyant une fois une toile d'elle en vrai dans un musée, effectivement, ça m'a hyper impactée. Enfin, j'ai vraiment ressenti un truc très fort, quoi. Mais voilà, en fait, ouais, je voulais dire ça sur Frida, ouais. Enfin, sur Frida, tout. Bon, maintenant, voilà, c'est devenu, ouais, presque, comment dirais-je, c'est devenu presque un produit. Enfin, c'est incroyable, comme elle est déclinée sur plein de choses, quoi.
Bien malgré elle.
Bien malgré elle, elle y peut rien, voilà. Mais bon, c'est chouette de voir une personne comme ça partout. Mais c'est un peu comme le Che, par exemple, le visage du Che qu'on a tellement vu qu'on pourrait vendre du coca. D'ailleurs, il n'y a pas du Che, que cola, je ne sais pas dans quoi. Enfin bref, salut Che.
Ta peinture, on pourrait la qualifier de surréaliste?
Non, pas du tout. Il n'y a pas grand-chose de surréaliste là-dedans, c'est... Ça me fait plaisir qu'on parle de ma peinture comme ça, j'ai l'impression d'exister là tout d'un coup, c'est super chouette. Alors la peinture, en fait pour moi elle a un côté assez naïf, assez simple, et en fait, le truc c'est que je cherche pas à faire du beau, j'ai jamais cherché à faire du beau, j'ai toujours voulu dire des choses. Et du coup, quand j'ai rien à dire, j'arrête de peindre. Et puis, effectivement, j'ai fait 2-3 petites pièces un peu plus décoratives parce que je me suis rendu compte que vouloir mettre... qu'enfin, il n'y avait pas grand monde qui avait envie de mettre de la guerre et des conflits sociaux les murs de son salon, quoi. Donc, j'ai fait quelques petites pièces comme ça qui sont plus anodines, quoi, juste pour... Qui sont mignonnes, juste agréables à regarder. Mais la plupart des choses que je fais, c'est pour dire des choses. Voilà, je ne cherche pas esthétiquement à plaire spécialement. Si j'aime bien marier les couleurs, j'aime bien faire des trucs avec les couleurs, quoi. Mais je cherche plus à dire des trucs. Voilà. D'ailleurs, Saïd l'a bien compris. D'ailleurs, ah oui, au passage, dans la série... quand même, je suis pas seule au monde. Je voudrais remercier Saïd Et je voudrais aussi remercier les gens de la Forge d'Auguste. Je les connais pas par leur prénom, donc je peux pas leur faire une petite dédicace. Mais déjà, il fut un temps, on a passé un merveilleux été à exposer dans cet endroit. On était vraiment en liberté, ça a été un vrai bonheur. Donc déjà, j'en garde un souvenir impérissable. C'était en 2011. Merci Yvette, la forgeronne. Merci beaucoup, parce que ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. Puis il y a toujours de chouettes choses qui se passent, et puis c'est vraiment dans un bon esprit, et ça mérite d'être souligné, parce que c'est quand même super rare, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené, Messoun et toi, à exposer ensemble ?
Pourquoi ? Ah bah écoute, je dois dire la vérité. Alors elle est toute crue, elle est toute nue, la vérité. C'est tout simple, c'est que Messoun, après avoir habité 14 ans à Die, elle est partie vivre à Montélimar pour des raisons familiales. Et que, en fait, elle fait aussi des ateliers tarot. Et avec chance, un des ateliers tarot se passait à la maison. C'était vraiment sympa. Et du coup, pendant l'atelier, on discute aussi un petit peu. Elle nous expliquait qu'elle cherchait du boulot, que Montélimar, il n'y avait déjà pas France Q, qu'elle ne se marrait pas vraiment. Et donc, elle nous faisait part de cette préoccupation de trouver du travail. En fait, moi, ça m'a un petit peu fait un électrochoc, parce qu'en fait, comme je considère vraiment Messoun, et là, je faillote pas avec elle, mais je la considère comme une grande artiste. Parce que j'en ai vu des choses, je veux dire, j'ai voyagé, rien qu'à Paris, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, vu le travail de pas mal d'artistes. Mais pour moi, Messoun, c'est vraiment une grande artiste. Et donc, en fait, ça m'a complètement énervée qu'elle ait à chercher du boulot, alors qu'elle a un trésor qui est dans un box à Valence. Et puis en fait, moi aussi, j'avais quelques trucs sous le coude. Et je lui ai dit, Messoun, tu veux pas, on fait une petite expo, on sait jamais s'il y a quelques pièces qui partent. Et en plus, du coup, Messoun et moi, on se connaît depuis 30 ans à peu près. On s'est rencontrés à Paris, on s'est retrouvés à Marseille. C'est la seule nana qui a gardé mon fiston Rudy quand il était bébé, il pleurait beaucoup. Et donc, c'est une histoire d'amitié aussi, et puis qui dure. Et c'est vraiment super... de se retrouver pour faire ça. C'est un peu, ce que je veux dire, c'est un peu une célébration de nos parcours qui sont pas vraiment parallèles, qui se sont croisés, décroisés, pour qu'on se retrouve finalement ici à Die, puis qu'elle en parte. Voilà, et puis aussi une petite dédicace à Lovecraft, qui est l'association qui organise donc cette exposition. Qui a d'autres ambitions, d'ailleurs, un petit marché de Noël, alors on cherche encore le nom, Ta Mère Noël, c'est peut-être un peu fort, on continue à chercher, mais donc aussi Lovecraft a envie de réunir des artisans, des artistes, des musiciens, et puis des gens qui font du cirque, pour organiser une fête à l'équinoxe d'hiver, le 21 décembre. Bon, ça c'est un projet... qui va être proposé bientôt. Il faudrait être assez plein, assez nombreux, parce que pour monter un truc comme ça, il faut être une bonne petite équipe. Donc voilà, j'ai envie d'en parler ici puisque j'ai un micro. Voilà, donc bientôt il y aura une réunion à l'ESCDD pour réunir un peu des gens, voir qui serait partant pour monter ça pour décembre 2018, le 21. Voilà.
Alors, chance pour se renseigner auprès des réseaux sociaux ou de vous joindre. Comment peut-on faire pour venir à cette exposition qui aura lieu donc du 30 mars au 1er avril, sur 3 journées, donc pour connaître du moins les horaires d'ouverture?
Alors, les horaires d'ouverture, déjà j'ai fait un fly qui va être distribué. Ce sera mon numéro de téléphone 06 15 66 27 73. Pour les horaires d'ouverture, mais sur le samedi, il y aura pendant le marché, entre 10h et 14h, ça sera ouvert. Je pense aussi en fin d'après-midi, genre 17h, peut-être 21h. Le dimanche après-midi aussi. Et puis voilà. Et puis donc le vernissage, apéro, expérimentation sonore et gargarisme. Donc ça sera à 19h le vendredi 30 mars à la Forge d'Auguste. Merci Yvette.
Eh bien chance, merci d'être venu nous parler donc de cette exposition et je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.